Brouillage.
La Loge.
Radio Campus Paris.
Brouillage. Brouillage, le festival à voir et à écouter. Du 28 avril au 6 mai. En direct depuis le théâtre La Loge. Et sur Radio Campus Paris. Tout au long de la semaine, Radio Campus Paris met la création sonore à l'honneur dès 19h. En proposant une heure d'œuvres sonores inédites. Décollage dans 5, 4, 3, 2, 1.
Et quelques poussières, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris pour une émission spéciale dans le cadre du festival Brouillage. Une émission en partenariat avec la revue Saint-Aune, une revue en ligne à lire sur saintaune.fr, dédiée à la critique et à l'actualité de l'art radiophonique. Jusqu'au 6 mai, Brouillage est un festival à voir et à écouter qui brouille les frontières entre la création sonore et le spectacle vivant. C'est un festival à voir à la radio sur les ondes de Campus Paris et un festival à écouter sur la scène du Théâtre de la Loge dans le 11e arrondissement de Paris. Un festival hybride comme on les aime qui met en avant l'expérimentation et la jeune création. Mais quelle forme prend la radio quand elle se fabrique sur scène, hors des studios et en public? Comment écrit-on, mettons en scène un spectacle, pensé à la fois pour la radio et pour le plateau? Comment l'expérience de la scène modifie-t-elle l'écriture radiophonique et comment concilier les contraintes et les libertés de la radio avec celles du théâtre? Pour parler de toutes ces questions autour de la table, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Dacuna, directeur de l'antenne de Campus Paris, Mélanie Pécla, membre de Campus Paris et qui fait partie de la programmation du Festival Brouillard, Florent Barra et Émilie Praneuf, membres du collectif WOW, qui ont présenté hier et avant-hier leur Piletta Remix au Théâtre de la Loge, que vous avez pu entendre sur les ondes de Campus Paris, et Laure Egoroff, réalisatrice de fiction radiophonique sur France Culture. Bonsoir et merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation.
Radio Campus Paris. Brouillage.
La Loge.
Brouillage. Brouillage, le festival à voir et à écouter, du 28 avril au 6 mai. En direct depuis le théâtre La Loge et sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, et comme je disais, ben merci d'avoir accepté l'invitation. C'est assez rare d'avoir plein de gens de radio qui se retrouvent dans un studio de radio pour parler de radio. Voilà, bienvenue à vous.
Merci.
Bonsoir.
Merci.
Bonsoir.
Alors peut-être avant de commencer, moi je voulais, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, de parler de théâtre, de radio et de mise en scène, peut-être quelques mots sur le festival avec Christophe et Mélanie. Cette année, c'est la 4e édition du festival Brouillage. Comment est venue l'idée, il y a 4 ans maintenant, de créer ce festival, donc une radio, Radio Campus Paris, et un théâtre, le Théâtre de la Loge dans le 11e arrondissement?
Alors c'est la magie de la bière. C'est dangereux pour la santé, on le rappelle, mais en fait c'est juste né autour d'une bière entre le directeur d'antenne de l'époque, Corentin Cardraon, et le directeur de la Loge, Lucas Bonifay. Et en fait ça fait longtemps en fait que Radio Campus Paris travaille avec la Loge, et puis parce que jeune création, parce que Radio Campus Paris forcément, on est plutôt copains, et donc on s'est dit, ils se sont dit à ce moment là mais c'est vrai qu'on fait pas grand chose, enfin on rediffusait déjà des pièces de la Loge, mais il n'y avait pas de création pour la radio et pour la scène en même temps, et donc du coup voilà, tout simplement l'idée est née à ce moment-là autour d'un café, on va dire café c'est mieux, et puis ensuite on a tout mis en œuvre pour faire démarrer ce festival. Donc l'idée effectivement c'était de monter un festival qui est en même temps à voir et à écouter, et proposer en fait à des compagnies de théâtre qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler le son, de justement travailler le son et de penser leur spectacle pour la radio, et puis de pousser un peu des créateurs sonores à travailler la mise en scène, ce qui n'est pas forcément non plus un terrain sur lequel ils ont l'habitude de travailler. Et donc en fait c'est de là qu'est né ce festival un peu hybride, de pousser les uns et les autres un peu hors de leur zone de confort habituelle et d'aller sur des terrains un peu d'expérimentation.
Donc à Brouillage, c'est ça, on découvre beaucoup de créations inédites qui ont été faites spécialement pour le festival.
Exactement. Alors c'est pas le cas de Piletta Remix, mais en fait le collectif WOW nous a contacté pour nous proposer de présenter donc Piletta Remix au festival, ce qu'on a accepté aussi parce que l'idée c'est aussi de montrer des choses qui nous semblent nous intéressantes intéressante et donc de pas uniquement proposer que des créations, mais on est quand même parti à la base de l'idée de la création. Donc ce qui fait que à la loge, Lucas travaille, a l'habitude de travailler avec beaucoup de compagnies de théâtre, et donc il propose aussi à des compagnies de théâtre qui ont l'habitude de travailler avec lui de produire pour la radio. Et c'est le cas par exemple cette année avec Hôtel Paradise du collectif Piscine Municipale, et donc qui ont l'habitude de travailler donc à la loge, et donc qui viennent vraiment eux du spectacle vivant et pas du tout de la radio. Donc le but pour le coup c'est de les accompagner là-dedans, et ça c'est le rôle de Radio Campus Paris, d'apporter des solutions et des idées de mise en onde et de mise en son pour Brouillage et pour cet objet hybride, puisque tout est rediffusé et retransmis en direct à la radio.
Donc brouiller les frontières entre spectacle vivant et création sonore, vous évoquiez le fait qu'il y ait des personnes qui sont plutôt du théâtre qui s'essayent à la création sonore et radiophonique, des gens qui viennent plutôt de la radio qui s'essayent à des formes de spectacle vivant, mais vous avez également des gens qui sont plutôt du domaine des arts plastiques cette année, ou peut-être même les années avant, mais il y a des installations aussi dans le cadre de Brouillage.
Effectivement, depuis l'année dernière, on a intégré aussi le plastique sonore. Alors il n'y a pas beaucoup d'artistes qui travaillent le plastique sonore malheureusement, enfin j'ai l'impression en tout cas, parce qu'on essaie de passer par un appel à projet via le CNAP, et en fait on a quand même très peu de candidats, en tout cas intéressants, qui proposent des choses qui peuvent s'intégrer dans une galerie, parce qu'on nous propose des trucs assez fous, mais qui ne sont pas du tout tenables entre quatre murs à Paris. Donc du coup, voilà, on est obligé de faire des choix comme ça. Et oui, on s'est dit que c'était intéressant aussi d'aller voir de ce côté-là, parce que c'est aussi un terrain d'expérimentation qui est intéressant et que nous, on avait envie de travailler un petit peu. Donc là, on a trois artistes, dont un en fait qui s'est un peu rajouté, parce que c'était une œuvre qu'on aimait bien, qui nous faisait marrer, mais qui n'est pas tellement sonore, enfin un petit peu, mais pas tellement. Donc Jordan Allard, qui propose une installation en fait en deux temps, et qui questionne en fait notre rapport aux réseaux sociaux et internet et la manière dont on les utilise. Et en fait il fait de la création sonore à partir de recherches Google des gens. Donc en fait il fait une sorte de portrait des gens à partir de ce qu'ils recherchent sur internet, et donc il y a une sorte de sonomaton, de cabine où on peut parler avec la machine, interagir et s'enregistrer, et puis c'est ensuite rediffusé via dans une autre salle avec les vidéos, etc. Et le son évidemment. Et puis Conversation avec ma plante de Celsian en Langlois. Alors l'idée c'est d'avoir des petits micros disséminés un petit peu partout dans la galerie, et puis on va chuchoter des choses dans les micros, et en fait les micros sont reliés à des plantes qui sont dans l'espace mais qui sont pas forcément directes, donc on peut pas voir à quelle plante on chuchote des choses, et puis on peut lui raconter plein de choses, lui raconter notre vie, lui susurrer des mots doux, et donc cette plante peut écouter puisqu'elle a une petite enceinte qui est reliée au micro.
Donc ça c'est des installations qu'on retrouve Où
alors à la galerie L'Inattendu, qui est au 50 rue des Tournelles, donc juste en bas des locaux de Radio Campus Paris.
Christophe, directeur d'antenne de Campus Paris, qu'est-ce qu'on peut retrouver pendant Brouillage sur l'antenne, j'imagine? Donc il y a un décrochage à partir de 20h.
Exactement, ouais.
Au tête de la loge, donc j'imagine que c'est quand même du boulot au niveau technique pour diffuser depuis là-bas.
Ouais, on diffuse du coup en direct tous les spectacles, y compris sur les interplateaux. En fait c'est ça qui est un peu particulier, c'est que du coup le temps de plateau, en fait le temps du théâtre qui peut être un temps plus ou moins long, et qui un spectacle on peut l'annoncer à 20h, il peut commencer à 20h05, 20h10, là du coup on a les vraies contraintes de radio et le spectacle doit commencer à 20h, donc du coup on a la même contrainte sur les interplateaux, où du coup on doit prévoir aussi de diffuser des créations, et là cette année on a choisi de diffuser les créations du concours Paroles Partagées. Les spectateurs ont également l'occasion d'écouter des créations pendant ces changements de plateau. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut retrouver?
Super sexoui. D'Elisa Monteil. Alors, Elisa Monteil qui a fait une masterclass dans le cadre de Brouillage et qui a un blog de porno sonore. Donc, super sexoui. Et du coup, il y a des créations qui ont été réalisées ici dans les locaux de Radio Campus avec des participants au masterclass. C'est assez cool.
Et toujours pour rebondir sur les masterclass, parce que du coup, il y a plusieurs masterclass qui ont été réalisées à destination des plus ou moins professionnels qui s'intéressent à la création sonore et à la mise en scène, et puis au lien entre les deux. Il y a une création qui s'appelle du coup Fin du Monde. C'est ça qui a été.
Oui, qui va changer de nom. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais effectivement, parce que Christophe Deleu a produit quelque chose qui s'appelait Fin du Monde, donc on ne pouvait pas lui voler le titre. De France Joly qui est auteur de fiction pour France Culture et donc qui a fait une masterclass ici avec une quinzaine de participants.
Donc ça on pourra le retrouver à l'antenne également. Il y a notre émission 37.2 de Portraits Sonores qui est une émission de portraits de 15 minutes tous les mardis sur l'antenne de Campus Paris, qui là a réalisé une série de portraits spécialement dans le cadre de Brouillage, qui est diffusée chaque jour à 18h. et une création de Charles-Henri Despeignes aussi à 18h55 en 5 épisodes qui est diffusée chaque soir. Voilà entre autres les choses qu'on peut retrouver sur l'antenne pendant cette semaine.
Parce que j'imagine que Brouillage c'est aussi pour Campus Paris l'occasion de mettre aussi un petit peu l'accent, de stimuler la création radiophonique, puis de mettre l'accent aussi sur des formes un petit peu hybrides qu'on voit assez rarement, ou en tout cas qu'on entend assez rarement à la radio. Il y a plusieurs émissions aussi de création sonore et collective sur l'antenne de Campus Paris. Vous pouvez peut-être en dire quelques mots. Moi je connais Récréation Sonore, la radio Cousumain, ouais. Mais j'en oublie sûrement d'autres.
C'est les deux principales.
Et 37.2, bien sûr.
37.2, ouais, dont je parlais avant. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est... on a ces émissions qui sont vraiment des rendez-vous pour les amateurs de création sonore. Donc, Récréation Sonore, c'est tous les dimanches à 18h. Et on essaye aussi d'en disséminer un peu partout dans la grille. Enfin, on reçoit très régulièrement des propositions de documentaires, de reportages à diffuser. Et du coup, ça, c'est de manière un peu plus ponctuelle. Mais on essaye vraiment de faire l'effort de donner l'envie aux gens d'en écouter de plus en plus.
Donc, le Festival Brouillage, c'est sur Campus Paris et au Théâtre de la Loge jusqu'au 6 mai. Avant, je sais que vous devez filer parce que vous allez tous les deux partir à la Loge. Mais j'avais peut-être une question un petit peu plus large pour tout le monde autour de la table. Est-ce que vous sentez depuis quelques années qu'il y a un intérêt croissant des artistes qui soit donc du théâtre ou du domaine plutôt plastique pour la radio? Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez? Je pose la question autant à Christophe et Mélanie de Radio Campus Paris qu'à Laure ou au Collectifo qui est présent ici. Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt croissant pour cette forme, pour aller tester, aller gratter du côté de la radio?
Moi, je dirais que oui, mais même au-delà de ça, j'ai l'impression quand même dans les formes théâtrales aujourd'hui, il y a plus de micros qu'il n'y en a jamais eu avant, plus de sonorisation, de musique. Donc, il y a du sonore qui s'invite dans les spectacles de plus en plus souvent. Donc, ça implique aussi un jeu qui parfois est d'ailleurs un jeu un peu plus radiophonique que théâtral sur la scène. Donc, oui, moi, je dirais qu'il y a... d'une manière générale un intérêt croissant pour le sonore.
Ouais, de la part des artistes, mais aussi de la part du public, je crois. Mmh. Nous, on organise à Bruxelles régulièrement des séances d'écoute publique, donc c'est tous ensemble dans une pièce, dans le noir, sur des coussins, avec du gros son, et c'est toujours blindé, quoi. Il y a toujours plein de monde, et de plus en plus. Donc je pense qu'aussi le public a envie de ça.
Ouais, enfin, pardon.
Non, j'avais fini.
À Radio Campus, on accueille aussi une émission qui s'appelle L'œil et l'écoute, qui travaille sur le territoire avec des jeunes et qui fait des ateliers radio. Et on se rend compte, en fait, à partir des ateliers radio et des gens qu'on peut rencontrer, que même dans les collèges et lycées, etc., les gens ont envie de faire de la radio, de produire des choses. Et on peut leur proposer de la fiction sans craindre, un rejet ou un recul de leur part en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Et effectivement, je pense que même chez les jeunes, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'effectivement, il y a une démocratisation des outils. Enfin, faire de la radio, ça coûte pas si cher par rapport à l'image, et on peut quand même assez facilement faire des choses chouettes avec juste un zoom, même s'il faut pas dire de marque. Et donc du coup, effectivement, je pense que pour les structures qui accueillent des jeunes, etc., et les ateliers, c'est quelque chose qui marche plutôt bien aussi.
Oui, c'est ça, il y a l'intérêt des jeunes, mais il y a aussi l'intérêt des structures et des gens qui gèrent les structures, qui font appel. Mmh. Nous, on fait appel à nous aussi pour faire des ateliers, enfin des écoles ou des centres culturels, ce qui n'arrivait pas avant, enfin pas pour nous en tout cas. Mais voilà, ouais.
Donc fiction, radio et mise en scène, on en reparle tout de suite après une petite pause musicale. On va écouter Algae in Cold Blood et puis on vous souhaite bon vent pour la loge parce que vous allez filer tout de suite, Christophe et Mélanie. Merci.
Merci à vous.
À tout à l'heure.
Yeah.
Nous sommes toujours en direct de Radio Campus Paris avec Florent Barra, Émilie Praneuf du collectif FO et Laure Egoroff qui réalise des fictions à France Culture. Je voulais vous poser la question parce que on parle de théâtre, de radio, de théâtre et de forme hybride sur scène. Vous venez tous quand même plutôt du monde du théâtre, si je ne me trompe pas. Pourquoi la radio en fait ? Comment vous êtes tombé là-dedans ? Pourquoi, c'est quoi qui vous a attiré dans la forme de la radio et pourquoi vous, voilà, comment vous êtes tombé là-dedans ?
Ok, bah alors effectivement, dans le collectif, on est 7. Il y a une petite majorité qui a fait une formation théâtrale. Et en fait, moi j'écris en parallèle depuis longtemps, et d'ailleurs j'écris surtout à la base. Et un jour, j'avais un texte et on ne savait pas trop quoi en faire. On ne savait pas s'il fallait en faire une pièce de théâtre ou autre chose, on ne savait pas trop. Et en fait, il y a une pote qui faisait une formation dans une école à Bruxelles qui était dans le module son, qui arrivait avec un agra, un micro, et c'était notre coloc. Et elle a commencé à dire « Ouais, je fais ça, je fais du son, c'est trop cool. » Et on s'est dit « Putain, on va faire du son. » Et voilà. Et du coup, on s'est dit « On va essayer de faire une fiction radio. » Et de fil en aiguille, on a rencontré des gens qui savaient un peu faire, parce que nous, on ne savait pas du tout. Et voilà, on a un peu bricolé un truc, et c'est un peu un hasard, un accident. Et en même temps, moi, je trouve que maintenant que je l'ai plus pratiqué, en tout cas, ce médium, je crois que c'est, par rapport à mon écriture, quelque chose de très naturel, en fait. Voilà, je crois que c'est un peu le médium qui porte le mieux ce que j'écris, en tout cas.
Laure Egoroff.
Oui.
La radio, c'est un accident aussi ?
Non, c'est pas vraiment un accident, mais je crois que j'étais peut-être simultanément intéressée par la radio et le théâtre. Enfin, je me souviens d'avoir bricolé enfant dans ma chambre avec un magnétophone. Donc, je pensais que tous les enfants faisaient ça, et puis après, on m'a dit que non, pas forcément. Donc, c'était peut-être déjà un intérêt pour le son et tout ce qu'on pouvait bricoler avec un magnétophone. Et bon, ensuite, j'ai une formation de comédienne, mais j'étais déjà intéressée par la radio. Et c'est pas, enfin, le trajet, ça n'a pas été vraiment du théâtre à la radio. C'était plutôt simultané. Et disons que même au théâtre, en fin de compte, j'avais toujours une grande attention pour la voix, pour les exercices de voix, parfois au détriment des exercices corporels. Enfin, la voix m'intéressait et voilà.
Qu'est-ce que la radio peut apporter sur scène, selon vous ?
Ah,
petit silence.
Qu'est-ce que le son, non ?
Qu'est-ce que le son ?
Ouais. Ça dépend d'où il vient et d'où on l'entend. Enfin,
Mais qu'est-ce que ça vous permet de fabriquer, justement, de travailler sur ces hybridations de quelque chose qui va se donner à voir, mais qui aussi peut se concevoir comme que quelque chose qu'on va entendre juste de l'autre côté du poste? Qu'est-ce que ça vous permet de mettre en scène, vous? Sans aller forcément tout le temps tout de suite dans le détail, parce qu'ensuite j'ai des petits extraits, je vous ferai écouter des choses. Mais comme ça, si je vous pose la question de but en blanc, est-ce qu'il y a des choses qui sortent ou pas forcément?
Bah, moi, ce que je trouve, merveilleux, en fait, quand on met de l'élaboration sonore sur une scène, c'est le décalage qui existe entre ce que la personne qui éventuellement a un casque sur les oreilles reçoit et ce qu'elle voit. En fait, c'est ce heurt constant entre ce qui est donné à voir et ce qui est donné à entendre qui est intéressant et qui a en fait des possibilités illimitées. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer sur, je pense, cette circulation entre ce qu'on voit, ce qu'on entend et le bruitage. En général, c'est génial, c'est ce que les gens préfèrent voir presque, parce que entre ce qu'ils entendent et l'objet qui est utilisé pour produire ce son, il y a souvent un très grand décalage. L'exemple typique, c'est celui du balai, pour faire le feu. Ouais. Voilà, c'est toujours, c'est classique, mais ça fonctionne toujours la première fois qu'on le voit.
C'est clair. Bah, moi, tout pareil. Je suis complètement d'accord. Il y a ça. Ça permet ça, en tout cas, ouais. Cette magie, un peu. Enfin, il faut dire un gros mot, quoi, mais c'est un peu ça. C'est un peu waouh, ça fait ça.
Ouais. Ouais, ça stimule l'imaginaire, ça ouvre les perspectives, quoi. Flo, t'as pas une...
Une phrase d'Orson Welles?
Oui.
Pourquoi il y a une habitude?
Non, il y a une citation d'Orson Welles qui est très très belle et qui définit très très bien la magie du son, moi je trouve, enfin, et le pouvoir que ça peut avoir, en tout cas, surtout dans cette période de dictature de l'image qui dure déjà depuis beaucoup trop longtemps. Mais Orson Welles, il disait qu'entre la radio et la différence entre la radio et le cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus grand. Et je trouve ça déjà d'une poésie folle et d'une justesse parfaite.
Donc Florent Barra et Émilie Praneuf, vous faites partie du collectif Wow, qui vient de Belgique. C'est un collectif pluridisciplinaire. Vous êtes combien, vous disiez?
On est sept.
Vous êtes sept. Alors, certains vous connaissent peut-être d'ailleurs pour une autre fiction qui n'est pas celle que vous présentez ici, mais qui s'appelle Beau jeune monstre, qui a été primée, multiprimée, qui a reçu le prix Europa, je crois, en fiction, ouais. Le prix Longueur d'onde pour la fiction d'humour cette année. Mais vous êtes venu cette année à Brouillage avec Pileta Remix. C'est une fiction qui a été jouée donc hier et avant-hier à La Loge. Que les auditeurs donc, et les auditrices ont pu écouter sur les ondes de Campus Paris. Et pour se plonger ou se replonger dans l'aventure de Pileta, en voici un court extrait.
Pileta, Pileta,
Pileta,
Pileta t'attends,
mais tu pars.
Pileta souffle,
cours, cours.
Pileta souffle,
cours, cours.
Puis tu craches tes poumons et tu marches à tâtons.
Ah, plus le choix.
Pileta, Pileta,
plus le choix.
Pileta, Pileta,
arrête pas.
Pileta souffle,
cours, cours.
Puis t'as le souffle,
cours, cours.
Puis tu craches tes poumons et tu marches à tâtons. Puis tu craches tes poumons et tu marches à tâtons. Eh oh,
t'es où là?
Eh oh,
c'est qui ça?
Y'a quelqu'un?
Un écho?
Un hibou?
Ouh,
ouh.
Hibou-sol?
Ouh.
Hibou-sol?
Hibou-sol?
C'est quoi ça?
C'est qui ça?
Qu'est-ce qu'il veut?
C'est pourquoi?
T'es qui toi?
Ça sent bon.
Ça se mange.
Cru? Cuit?
Qu'est-ce que t'as?
Pourquoi tu me regardes? Tu me cherches?
Tu cherches la bagarre, tu me cherches.
La bagarre, tu veux la bagarre?
C'est la bagarre que tu veux.
C'est la bagarre que tu cherches?
Non. Je cherche Pilipolis.
Ah, mais c'est au fond à droite.
T'es un peu en avance.
Pour la fête.
Quelle fête?
Le ciel s'illumine alors de bouquets de fleurs immenses.
Wow.
La nuit s'embrase d'arbres de feu gigantesques.
Wow.
Une forêt de flammes multicolores entoure maintenant la petite fille qui n'en croit pas ses yeux.
Wow.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
Ça, c'est l'homme fil de fer. Parce qu'il est long et fin comme un fil de fer.
Donc on vient d'écouter un extrait de Pileta Remix du collectif Wo, c'est une fiction qui était présentée à Brouillage. Alors c'est une belle histoire, celle de la petite fille, d'une petite fille qui s'appelle Pileta, qui est interprétée par vous, Émilie Praneuf, qui part à la recherche de la fleur de hibiscus pour soigner sa grand-mère malade. Et sur la route, elle rencontre tout un tas de personnages, dont le fameux et très méchant Monsieur Fil de Fer. Vous venez d'écouter ça avec grande attention, ça vous a fait quoi de réécouter ça là? Vous étiez assez concentré quand même, j'ai vu.
Ouais, c'est je l'ai entendu beaucoup parce que moi j'ai quand même beaucoup écouté les prises qu'on a pu faire avant. C'est toujours un peu bizarre de s'entendre. On entend un peu tous les défauts hein, qu'on a pas envie d'entendre, mais voilà. Enfin,
À l'origine de cette création-là, il y avait une pièce radiophonique pour jeune public qui s'appelait Pileta Louise, que vous aviez imaginée en 2012. Et vous avez eu envie d'en faire une forme live. Comment c'est venu cette idée? Pourquoi cette idée saugrenue de refaire Pileta, de refaire l'aventure de Pileta, mais sur scène?
On avait déjà fait ça avec une autre pièce radio que Florent avait écrite.
On avait fait une première tentative truc live et participatif, ce qui était un peu avec des enfants. C'était un peu genre en mode le livre dont vous êtes le héros. Donc parfois les personnages devaient choisir entre appuyer sur un bouton vert ou un bouton rouge et suivant le choix du public. Bon, il n'y avait qu'un chemin au final, hein. Ils ne le savaient pas, mais du coup ça a été un one shot. mais voilà, et ensuite on a eu une commande.
C'était une commande, ouais.
Après.
Ouais. Mais je ne sais pas à quel moment on s'est dit qu'on avait envie de mettre ça sur le plateau. J'ai l'impression que ça s'est. On en a eu envie assez vite, en fait.
Ouais, et en fait, comme je disais tout à l'heure, quand on faisait des séances d'écoute publique et tout ça avec le public, il y a quand même cette mouvance. Moi, j'aime bien partager la radio, ou la création radio et la fiction avec les gens. Et déjà, parce que c'est cool d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Normalement, la radio, par définition, on ne voit pas les gens qui écoutent et on ne sait pas ce qu'ils en pensent vraiment. Et on a fait aussi pas mal d'ateliers aussi, nous, dans des écoles pendant un an et demi. Et du coup, il y a vraiment ce partage avec les gens de la radio. Ça nous a paru très, très naturel de. Là, c'est un peu en mode où on invite les gens dans un studio pour voir comment ça marche, quoi. C'est un peu, pour moi, c'est sans être un truc didactique à la con. Hein. Enfin, c'est juste pour le plaisir de voir comment ça se fait.
Et puis, je pense que aussi nos formations initiales nous ont influencés dans la manière d'être sur scène et de penser le son et de penser le jeu et de penser la scéno, les lumières.
Et c'est aussi, en fait, pardon, mais de proposer un truc sur scène, c'est aussi un super bon prétexte. Pour venir faire écouter des choses aux gens. Parce que, autant, comme je disais tout à l'heure, les séances d'écoute publique, ça fonctionne, mais là, je sais que d'être sur une scène de théâtre, programmée par un théâtre, ça fait venir beaucoup, beaucoup de monde pour écouter une fiction radio.
C'est une manière aussi de trouver, d'élargir un petit peu le public.
Ouais, c'est ça, et les gens en sortant, nous, on revendique le fait que ce soit une fiction radio, vraiment, on fait pas du théâtre microphoné, quoi. D'ailleurs, on est assis, on est au casque, au micro, quasiment assis.
Donc ça, c'est peut-être intéressant justement aussi de décrire un petit peu le dispositif, parce que sur scène, les spectateurs, lorsqu'ils rentrent dans la salle, ont un casque, on leur donne un casque, donc chacun est plongé dans l'écoute, et vous, sur scène, vous avez tous aussi des casques, donc on a vraiment le rappel de la présence, du fait que c'est de la radio.
Ouais. Et moi, je sais que, en tout cas, de l'intérieur, j'essaie vraiment de jouer pour le micro. Et puis de penser que. Ouais, hier, c'était par exemple hyper plaisant et avant-hier de jouer. J'aime bien jouer quand on est en direct parce que ça me rappelle encore plus à quel point c'est radiophonique et à quel point les gens qui ne nous voient pas doivent nous sentir, quoi. Et donc, et c'est aussi ce que les. La première fois qu'on a joué au casque, parce qu'on a déjà fait cette pièce, on l'a déjà jouée et le public n'était pas au casque. Et la première fois que le public était au casque, je me souviens, parce que c'est assez sombre la pièce, on est plongé quand même dans une obscurité, même s'il y a des jeux de lumière, etc. Mais quand on a rallumé la lumière pour le salut, la première fois, je me suis dit « Waouh !» On a partagé un secret. Enfin, il y avait un truc de... Je sais pas, ça m'a vachement touchée. Et je me suis dit... Ouais, ça me plaît aussi d'être sur un plateau et d'être dans une intimité comme ça. Parce que pour moi, c'est encore plus intime. Enfin, et voilà, et ça me touche.
Laurie Gouroff, je pense qu'on en discutait tout à l'heure, mais la présence du casque, le fait que les spectateurs soient au casque, c'est quelque chose qui change quand même quelque chose dans la façon dont l'attention qui est portée à ce qui se passe sur la scène.
Oui, ça change tout, je crois. Le fait que le public soit au casque et non pas dans une sonorisation, même si parfois il y a des sonorisations qui sont quand même satisfaisantes ou qui permettent l'immersion du public dans le son. Mais d'abord, ça pose d'énormes problèmes techniques, toujours, la question de la sonorisation, quand on doit finalement fournir un produit radio. Hein, c'est-à-dire que moi, je parle évidemment d'émissions qui sont enregistrées en public, mais qui ont pour vocation d'être diffusées sur une antenne. Donc le produit radiophonique est quand même beaucoup plus satisfaisant quand le public a des casques, puisqu'on n'a pas de repise dans les micros, etc. Et après, je crois que l'expérience du public est différente aussi parce que le casque permet permet en effet d'être un peu dans sa bulle. De se couper parfois de l'image. Je crois que le public a une attitude différente. En fait, j'ai l'impression que quand le public a un casque sur les oreilles, parfois il ferme les yeux, il part, il peut éventuellement revenir. Quand on est dans un dispositif de sonorisation, j'ai l'impression que on est presque comme au théâtre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de, on n'est pas pris de la même manière, je crois. Et puis comme on est parfois hyper sollicité par ce qui se passe sur la scène, parce qu'on a quand même la tentation, pour peu qu'il y ait des musiciens, des bruiteurs, des comédiens qui se déplacent, on est quand même attrapé par l'image scénique, et malgré tout, je crois qu'elle gagne parfois. Donc voilà, moi c'est vrai que je suis vraiment plutôt pour des formes au casque. Je trouve que c'est... Ouais, c'est un entre-deux beaucoup plus intéressant.
C'est intéressant parce que justement hier, lors de la représentation de Piletta Remix, moi j'ai observé qu'il y avait beaucoup de gens qui fermaient les yeux pendant la représentation, et je me suis rendu compte, là je m'en rends compte grâce à ce que dit Laure, c'est que c'est vrai que vous êtes assez statique finalement, vous bougez pas beaucoup sur scène, et ça nous permet vraiment de nous concentrer sur ce que le son raconte et ce que vous racontez avec le son. Il y a très peu de distractions, en tout cas sur le plateau. Et c'est une volonté de votre part, j'imagine.
Ouais, carrément, il n'y a que Piletta qui bouge, vraiment. Et puis j'ai la sensation que je bouge un peu par nécessité, parce que je sais que ça va aider le son et ça va l'envoyer dans telle ou telle direction, etc. Et moi, ce que je trouve chouette aussi avec le casque et le fait de fermer ses yeux, et ça rend aussi le spectateur, l'auditeur, plus libre. Il choisit. Il y en a même qui enlèvent le casque. Et moi, ça, je trouve ça aussi intéressant de voir la nudité de... du plateau et des acteurs et du jeu sans le casque, puis avec les yeux fermés, puis en ouvrant. Enfin, on peut décider de ne regarder que les bruiteurs, que le personnage, que
voilà. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce que ce qui est intéressant parfois, c'est que quand on a le casque, on a la totalité des sons, alors qu'il peut arriver que les comédiens, qu'on ait simplement les voix nues qui soient enregistrées sur le plateau, et que les éléments soit envoyé depuis une cabine dans les casques des spectateurs.
Donc
auditeurs.
Que ce soit de la musique ou d'autres types de bruitages, voilà, qui ne sont pas réalisés sur scène.
Des ambiances, voilà, des choses qui ne sont pas réalisées sur scène et qui sont ajoutées. Mais disons que l'addition de la voix et de ces éléments sonores n'existe que dans le casque du spectateur auditeur, qui peut le retirer.
Ouais,
et...
nous c'est clairement ce qui se passe avec tous les morceaux musicaux. Hein. Par exemple, si les gens enlèvent le casque, ils nous entendent chanter plus ou moins juste et très très nus. Et voilà, ils ont juste nos voix. C'est vrai que la manipulation des objets de bruitage aussi, par l'amplification, prend une autre dimension. On a une planche à élastique qui fait plus ou moins de la musique. Si tu la joues nue, elle fait de la bonne musique quand tu la joues dans le micro. Mais enfin, voilà, si tu l'entends, ça fait ting ting tong tong. C'est des élastoques, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas très...
Oui, et parfois, on n'entend rien aussi.
Et parfois, on n'entend même rien. Enfin, si on enlève le casque, on n'entend rien, oui.
Et puis, il y a des enfants, parfois, qui ont enlevé le casque et qui disaient, mais on n'entendait rien. Il ne se passerait rien, c'est une bande enregistrée.
Mais c'est quand même super, je sais pas, c'est quand même trop cool de pouvoir jouer, et quand il y a un moment tu vas dire un petit secret à tout le public en même temps dans l'oreille, quoi. C'est génial. Ouais. Enfin, il y a un truc génial qui est impossible au théâtre. Enfin, sans micro et sans amplification, tu vois. Et même sans casque d'ailleurs, je pense. Là, on peut vraiment aller... elle fait comme ça.
L'intimité collective.
Quoi. À fond. Ouais. Et c'est un peu paradoxal, parce que du coup, ouais, il y a une intimité collective, et ça qui est paradoxal. C'est qu'on réunit les gens, mais on les sépare. Parce qu'ils sont tous ensemble, mais ils sont un peu enfermés dans leur bulle. Du coup, ils ne sont pas non plus distraits, et ils ne répondent pas à une injonction sociale. Quand les gens rient, tout le monde rit. Là, en fait, parfois, on n'entend pas les réactions des autres quand on est dans le public. Et du coup, ouais, il y a une intimité, mais elle est collective, et ça, c'est chouette, je trouve.
Et parfois, on les entend plus aussi, comme les sourds qui font beaucoup de bruit, mais parfois, on entend aussi très fort les réactions, parce que...
Ouais, les gens ne se rendent pas compte qu'ils parlent très fort, comme ils ont des casques. Et notamment les gamins qui viennent nous voir, c'est trop marrant, parce que des fois, on entend « Ouais, t'as vu, elle a fait comme ça !» Et ils parlent super fort. Et
je trouve que ça donne une vraie liberté, voilà. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas.
En tout cas, nous, on joue aussi beaucoup pour des scolaires, et les profs nous ont dit qu'ils n'ont jamais été aussi attentifs pendant une heure que devant ce spectacle. Bah déjà parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se parler les uns les autres, parce qu'il faut que l'autre il soit aussi connecté en ce moment, au même moment, et qu'il enlève son casque. Et du coup, il y a des profs qui ont dit, on va faire pareil en classe, on va mettre un micro, on va leur mettre des casques, au moins ils vont nous écouter. Enfin, en tout cas, ça resserre l'écoute, ça c'est sûr.
On va écouter un autre petit extrait de Piletta, puis je vous ferai réagir à la suite.
Alors, on a Les mains en l'air, c'est où dans le tout ?
Parlez plus fort, je n'entends rien avec cette cagoule.
Les mains en l'air, c'est où dans le tout ?
Ah bah même quand j'entends, je ne comprends pas. Bah donnez-moi une seconde, j'appelle mon collègue Magic. Magic !
Oui ?
Venez donc un petit peu par ici, une petite personne en cagoule qui me demande quelque chose et je comprends pas ce qu'elle veut.
J'ai rien compris.
Venez donc un petit peu, venez donc. Il y a une petite personne en cagoule, il me demande quelque chose, je comprends pas ce qu'elle veut.
Oui, je suis là.
Merci.
Bonjour mademoiselle, c'est pourquoi ?
Bonjour monsieur.
Bonjour mademoiselle, c'est pourquoi ?
Les mains en l'air, c'est où dans le tout ?
Ah non, c'est un hold-up. Vous voulez tout l'argent de la banque, c'est ça ?
Oh oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'elle dit ?
Bah, elle dit qu'il faut que tu mettes les mains en l'air, c'est un hold-up.
Hop ! Bon, eh ben, comme on a les mains en l'air, nous, vous voulez bien aller lui chercher les deux sacs de pièces dans le coffre, fort, Magic ?
C'est pas vrai, mais moi je me fais toujours avoir
oui, merci.
Avec... Oh, bon, bah j'y vais alors.
Oui, hein. Vous inquiétez pas, il sera pas long. Cette personne. Oui.
C'est quoi déjà le code ? Voilà. Au nom de Dieu, c'est l'ours. Voilà, mademoiselle.
Ah ben, merci.
Ah ben, de rien. Allez, au revoir.
Et bonne journée, petite personne en cagoule.
Ben, bonne journée.
Alors, en écoutant cet extrait de Pileta, moi, je peux pas m'empêcher d'essayer d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler sur scène. Donc, je vais poser peut-être la question à Laure, parce que moi, je l'ai vu hier. Donc, je sais à peu près comment c'est fait, en tout cas, comment ça donne visuellement. Laure Egorov, est-ce que si vous deviez deviner à quoi ça ressemble sur scène, ce petit moment ?
Comment ça a été fabriqué ?
Parce qu'on sait que c'est en direct, donc il n'y a pas de travail de post-production, c'est quelque chose qui est fait live sur scène.
Ouais.
Donc il y a beaucoup de possibilités, mais bon.
Alors j'imagine que chaque comédien a son micro, qui a donc des bruitages qui sont réalisés en direct, notamment le sac de pièces, tout ça. Et puis il y en a un certain nombre qui sont envoyés aussi, donc j'imagine que scéniquement on vous voit. Face à vos micros, il y a des effets de plan quand même, de plan sonore, des moments d'approche, de recul, l'effort de la tractation du sac de pièces, enfin, voilà.
Est-ce que le collectif WOW approuve
Vendu. Ouais, approuvé. Ouais, non, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. On est effectivement, il y a un poste de bruitage. Ouais. Enfin, il y en a deux même en fait. Il y a une première ambiance qu'on installe avec des vrais bruitages. Moi, j'ai une chaîne qui fait des pièces. Ben, il a un petit livre qui fait comme des billets qu'on compte. Et on a une louche aussi avec des boulons qui font aussi des pièces. Enfin, et puis après, il y a une nappe qui vient, qui est elle préenregistrée. Et effectivement, Émilie pour Pileta joue sur des plans différents pour parler à ce banquier. Moi d'ailleurs je suis beaucoup trop au premier plan tout le temps, j'ai l'impression, mais voilà. Mais en fait aussi c'est pour moi, quand je l'écoute, et ça me fait un peu tiquer tout le temps, enfin pas que ça, tout le temps, hein, tout, parce que on l'imagine, enfin en tout cas on l'envisage vraiment comme un travail, tout le temps en travail justement, et on a envie toujours d'ajouter des choses. Enfin, on parlait justement de mettre un nouvel effet, enfin pour justement jouer sur des plans différents avec ces deux banquiers. On voulait utiliser aussi peut-être des talkie-walkie pour qu'ils communiquent entre eux, pour avoir cet effet un peu parlophone, enfin comment on appelle ça, vous savez, les
hygiaphones.
Ouais, c'est ça, l'hygiaphone, ouais. Voilà. Enfin bref, en tout cas, on l'imagine vraiment comme une partition live du début à la fin, et c'est toujours vraiment en mouvement. Hier, on a tenté d'ailleurs, enfin hier et avant-hier, on a tenté un tout nouveau morceau de musique à la toute fin qu'on a foiré le premier jour et qu'on a réussi le deuxième, on était content. Mais on aime bien se mettre aussi dans ce risque. Pardon, t'as pas du tout posé la question par rapport à ça, mais c'est juste pour dire qu'en l'écoutant, je me dis, ah putain, il y a moyen de faire encore mille choses.
Enfin, non, mais c'est bien parce que je l'avais sélectionné d'ailleurs, le morceau. Ah non, c'est un nouveau que vous avez fait hier.
On l'a fait hier, on l'a fait avant-hier, mais on l'a raté. J'espère que t'as pas sélectionné ça comme extrait.
Non, mais je voulais revenir là-dessus. C'est un work in progress, mais j'imagine que c'est un gros travail déjà avant d'avoir une première version live, entre la version Pileta Louise qui était une fiction qui était était finalisée. Et là, aujourd'hui, où vous avez dû quand même la mettre, faire un gros travail de réécriture pour la mettre sur scène. Et en plus, c'est un travail qui est complètement qui n'arrête pas, qui est pas fini, quoi.
Ouais, c'est clair qu'on l'a du coup réécrit et très très vite, parce qu'en fait on a eu une contrainte de temps assez, enfin c'était une commande et on avait une semaine de boulot, on a commencé à bosser sur un texte qui ne marchait pas du tout et du coup il nous restait 3 jours, on a dit ok, on va reprendre Piletta et on va essayer, et parce qu'on sait que le texte on le connaît, on a
d'accord,
déjà des choses.
C'est-à-dire la première version, vous avez mis juste quelques jours pour refaire en live, quoi.
Oui, voilà, on a pris la première version qu'on avait mis du temps à réaliser, par contre on avait pris une bonne année pour faire cette production, parce qu'en Belgique on a le temps, c'est super. Et du coup, c'est vrai que pour la version live, on a été hyper speed et du coup, on a concentré. Au début, on a fait une forme de 30 minutes qu'on a réélargi après, mais on a tout condensé. Dans la version originale, il y a 22 personnes dessus. Enfin, là, on est 5, mais il y avait un groupe guitare, basse, batterie, contrebasse. Il y avait un comédien par personnage et il y a, je crois, 14 personnages. Enfin, là, on fait tout à 5, donc c'est. C'est aussi l'avantage du numérique et de la musique électronique et des outils aussi que nous permet ce médium radio, en fait. C'est qu'un mec avec 3 machines, il peut faire un orchestre. Ça, c'est super. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Et des choses que vous avez supprimées parce que c'était pas possible de le rendre en live, ou vous avez quand même gardé la structure de base de Piletta sans forcément virer des passages que vous trouviez compliqués à...
Non, c'est pas le live qui nous a empêchés, en tout cas. Non. Ça a été une contrainte de temps pour pas que ça prenne des plombes.
Pour qu'il y ait un bon rythme,
ouais,
aussi,
pour
qu'on ne s'ennuie pas.
Plus rythmé, c'est vrai que c'est pas pareil d'écouter chez soi tranquille et ça peut durer 58 minutes. D'ailleurs, la version de base, elle fait 56 ou 57. C'est un rythme que j'ai réécouté il y a pas longtemps, un peu par hasard, et du coup, par erreur, ça m'a fait. C'est beaucoup plus lent comme rythme. Et c'est vrai que c'est pour écouter chez soi, c'est un très jeune public. Enfin, beaucoup. Cette version-là est beaucoup moins jeune public, je trouve, que la version de base.
Parce que la version est très rythmée, moi, celle que j'ai vue hier, en tout cas, ça envoie, c'est 40-45 minutes, mais c'est vraiment un super rythme, on n'a pas le temps de souffler, enfin, en tout cas, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer, quoi, les personnages, et puis on sent que vous êtes vraiment complètement rodé aussi dans le texte et puis dans la dynamique, quoi.
Mais c'est vrai que le live, en tout cas, pousse à ça, enfin... Je pense que oui, ça se justifie parce que c'est une version live, quoi. Et que, du coup, c'est vrai que ça va plus vite, c'est plus fun, c'est plus rythmé, effectivement. Enfin, différemment rythmé, en tout cas.
On va écouter un extrait d'une des réalisations de Lori Goroff, qui s'appelle, cet extrait s'appelle Tom Sawyer, c'est adapté des aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, et c'est une fiction qui a été enregistrée en public au studio 104 de la Maison de la Radio, et c'était le 31 janvier 2015.
T'as amené ce que je t'avais demandé ?
J'ai du lard, du pain de maïs et de l'eau.
Parfait. J'ai des bougies, une canne à pêche, un couteau et 2 sucres d'orge. Eh, je parie que t'es jamais entré dans cette caverne.
J'avais pas de raison de le faire. Il fait noir et humide. Et puis, Tom Doniphone s'est perdu une fois dedans. On l'a retrouvé 10 ans plus tard à moitié mort.
C'est des légendes. Allez, on y va. Tu sais... Après le coup de la maison hantée, Tante Polly m'a interdit de te voir. Mais je suis là quand même. Elle m'a aussi interdit d'entrer dans la grotte.
Elle a peut-être raison.
Mais je joue là-dedans depuis des années, je la connais presque par cœur.
T'as pas peur d'y rencontrer des fantômes ?
Les fantômes fréquentent pas les cavernes.
Et t'as pas peur d'y rencontrer des bandits ?
Joe l'Indien, tu veux dire ? Je savais pas qu'il connaissait la grotte.
Mais maintenant, tu le sais. Oh là là, fait rudement froid. On n'y voit rien.
Aide-moi à allumer les bougies. Voilà. Ça, c'est la tienne.
Par où est-ce qu'on va ?
Suis-moi !
Florent Barra et Émilie Praneuf du collectif Faux, écoutez bien attentivement, les yeux fermés. J'ai envie de vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Laure Egorov, qui signe la réalisation de ce Tom Sawyer. Comment, à quoi, selon vous, ça pouvait ressembler sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio ? Ce petit extrait de fiction où on entend Tom et son camarade rentrer dans la grotte.
Alors, j'ai peur de dire une grosse connerie, mais je me demandais est-ce qu'il y avait un bruiteur.
Oui.
Et est-ce que c'est Monsieur Amiel?
Non.
Pas... Parce qu'il est chouette. Donc voilà, j'imagine qu'il y a un bruiteur.
Oui.
J'imagine qu'il y a deux comédiens.
Il était très fort.
Il est super fort, hein. Bertrand Amiel.
Non, mais le bruiteur.
Ah, le bruiteur. Alors, oui. J'imagine qu'il y a des effets sur les voix pour faire cette grotte qui a une réverbe.
Oui.
Il y a des bruitages en direct, les pas. J'imagine que c'est fait sur des textures, une texture particulière pour faire des pas. Hein. Les gouttes d'eau, peut-être, en direct aussi.
Il y avait un mélange.
Ah, ok. Ouais. Un peu le même principe du coup, hein, des comédiens avec des voix, des nappes un peu préenregistrées, des effets qui permettent aussi de faire des plans et des espaces, et un bruiteur qui fait du bruitage.
Il y avait même deux bruiteurs.
Il y
avait Patrick Martinache et Elodie Fiat, qui à l'époque se formaient au bruitage avant de devenir bruiteuse elle-même. Donc ils étaient deux. Et parce que là, je crois même qu'il y avait une simultanéité. L'un faisait les pas, l'autre était... en train de faire les gouttes, il y avait un...
Est-ce que l'allumette est un bruitage direct?
C'est en direct.
Et c'est une allumette?
Oui.
Ou c'était autre chose?
C'était une allumette.
Okay. Ouais. Parce que c'est toujours hyper dur à faire le bruitage d'un feu qui démarre, ça marche jamais. Quoi. Ok. Ouais.
C'est très beau.
Ouais, c'est chouette. J'ai pas écouté, mais je vais écouter, c'est cool.
C'était quoi les enjeux, là, justement, de la mise en espace de cette fiction? Parce que la scène du Studio 104 est quand même relativement grande, il me semble.
Ouais.
Comment on organise tout ça sur une scène?
Alors déjà, merci d'avoir choisi cet extrait, parce que du coup, la réverbe de la grotte était vraiment ce qui se prêtait le mieux à l'acoustique du 104, parce que pour les autres scènes, c'était beaucoup plus coton. Ouais, parce que le 104 est un grand studio, et il a une réverbération qui est plutôt adaptée à la musique d'habitude. Donc c'est sûr que quand on met des voix à l'intérieur, c'est compliqué parce qu'on entend la résonance. Donc on peut difficilement donner l'illusion, si tant est qu'on veuille la donner, d'espace extérieur et tout ça, ce qu'on arrive à faire assez facilement quand on a un studio avec une chambre sourde. Là, c'est plus compliqué. Donc là, la grotte, ça tombait bien, ça se prêtait bien à ça. Donc effectivement, il y avait de la réverbe en plus. Et l'enjeu, là, c'était, disons que c'est de donner... C'est un enjeu un peu didactique, comme disait Florent tout à l'heure aussi. C'est d'ouvrir un petit peu les coulisses de la radio, de montrer aux gens comment s'élabore une fiction radiophonique, même si ils ne voient pas tout, puisque pour voir tout, il faudrait aussi être en cabine, alors que là, ils ne voient que la scène. Il y avait une formation, il y avait des musiciens, il y avait les comédiens, il y avait un poste de bruitage. Tout ça était assez séparé en fait sur la scène pour pas qu'il y ait trop de contamination. Et donc voilà, c'était de donner à voir comment on fabriquait tout ça. Je sais qu'il y avait des moments où il y avait le bruiteur était à la perche, il était les techniciens parfois étaient apparents sur la scène, le bruitage l'était évidemment. Et puis on avait trouvé deux trois trucs parce que c'était pas évident en fait avec cette acoustique du 104, les comédiens étaient obligés d'être très très près des micros, on pouvait pas vraiment jouer sur les plans sonores, enfin c'était difficile, cette scène-là le permettait mais d'autres pas vraiment, il fallait qu'ils soient assez collés au micro, donc ça c'est dommage parce qu'on peut pas vraiment faire tous les plans qu'on aimerait faire, mais disons que ce qu'on gagne en contrepartie c'est d'avoir comme ça des moments où on peut jouer sur ce fameux décalage dont on parlait tout à l'heure, et il y avait notamment un passage qui était assez marrant pour le public parce que Tom Sawyer était... enfermé au tout début de la fiction, il est enfermé dans le placard à confiture, il est en train de chaparder des confitures. Et en fait, évidemment, on ne peut pas l'enfermer dans un placard sur la scène. Donc on avait truqué avec une caisse en bois dans laquelle il parlait, mais c'était vraiment c'était apparent pour le public. Donc il tenait vraiment la caisse devant le micro. Et du coup, voilà, on essayait un petit peu de jouer avec ça.
Ça, parce que ça me fait penser à un truc qu'on fait nous aussi pour faire un effet derrière porte. En fait, on parle dans un truc, on met une obstruction entre la voix et le micro qui peut faire ressembler à on écoute derrière une porte ou on est enfermé quelque part. Ouais,
ça marche très bien d'ailleurs. Hein. C'est lorsque Pileta se fait. Ah, on va pas dévoiler les. Mais ça marche très, bien en tout cas.
Ouais, tant mieux.
Ouais, tant mieux. C'est un truc qu'on a hésité à faire. On se disait que c'était un peu. Mais ça a l'air chouette en tout cas, et c'est, je sais plus, j'allais dire un truc et j'ai oublié en fait, mais voilà, du coup ça sert à rien que je dise ça.
Mais là, c'était peut-être la différence avec, avec d'autres, c'était que c'était sonorisé aussi.
Oui, j'avais une question, est-ce que les gens étaient au casque? Non, parce que tu parles de la pièce qu'on
entend. Non, les gens n'étaient pas au casque. En fait, il y avait un dispositif de sonorisation qui s'appelle le WFS, donc avec des tas d'enceintes sur la scène qui permettent de spatialiser les sons. Mais donc du coup, voilà, on essayait de, pardon, de diffuser des sons à différents endroits pour le public, de l'immerger le plus possible dans les sons. Mais ouais, le public n'était pas au casque, donc ça pose quand même tout un tas de problèmes techniques.
Ouais, et ce que disait Laure est juste aussi, si on voulait que les gens voient tout, il faudrait qu'ils puissent être en cabine. Nous, on a l'ingé son qui est avec nous sur scène aussi, puisqu'on est au casque, donc il n'est pas besoin d'être devant la façade, face à la façade, il peut juste mixer dans son casque ce qu'entendent les gens. Mais bon, on ne voit pas exactement les manips qu'il est en train de faire, effectivement, mais...
Non, mais ça rappelle, mais quand, même, mais ça rappelle quand même que ça c'est rappelle la radio
qu'il y a ce poste
encore.
Là,
ça rappelle qu'il y a ce poste-là, en effet.
Et effectivement, nous, je sais que pas mal d'enfants demandent « Et lui, il fait quoi ?» Parce qu'il n'a pas de micro devant lui. Il a un micro avec une... Non, il n'a pas de micro, d'ailleurs. Il a une lampe avec une bonnette pour faire un petit éclairage sympa, mais je veux dire, les enfants, il y en a qui disent « Ah, lui, il fait quoi? Il fait rien ?» Et puis du coup, c'est cool, ça permet d'enchaîner sur... Ouais, si, c'est quand même... La chaîne, en fait, arrive à lui qui redispatche tout dans vos casques pour que ce soit bien. Et enfin, voilà, on trouvait ça important aussi, de montrer les techniciens.
Ça a sa place. Enfin, ça a sa place. Sans lui, il n'y a rien qui se passe, quoi.
Oui, ou rien de bien.
Ou ça se passe, mais...
Moi, je voulais revenir sur la question de Tom Sawyer, parce que je sais qu'à France Culture, c'est quand même assez segmenté. Je sais que les personnes qui réalisent les fictions ne sont pas forcément les personnes qui adaptent les textes. Est-ce que ce n'est pas une contrainte un petit peu parfois rigide pour la mise en son, en fait, de fiction?
Si, alors c'est vrai que ça peut être une contrainte. Après, sur la plupart des projets, on a quand même un dialogue avec les adaptateurs ou les auteurs. Là, c'est Pierre Sange qui a adapté les aventures de Tom Sawyer. Et on a quand même travaillé en amont, même si généralement ces adaptations sont quasiment parfaites tout de suite. Mais on retravaille quand même, ne serait-ce que pour décider des interventions musicales, pour décider de ce qui va plus ou moins bien fonctionner dans le contexte particulier d'un enregistrement en public. Il y a des choses, on sait qu'on n'arrivera pas à les faire comme on les ferait en studio, en studio d'enregistrement habituel, je veux dire. Donc on les adapte et parfois on demande à l'adaptateur de changer. Donc on a cette petite souplesse quand même de pouvoir modifier pas mal de choses. Après, c'est sûr que c'est incomparable quand on a une partition qui est écrite et qu'on la met en onde, ou c'est pas du tout la même chose
que la création de Pileta.
C'est sûr, oui, bien sûr.
Et si vous deviez réaliser... un texte à la radio et pour la scène, ce serait lequel? Si vous pouviez choisir un qui serait particulièrement intéressant pour vous.
En fait, quand j'aimerais beaucoup faire quelque chose comme ça, mais je crois que j'ai pas d'idée de texte en particulier, parce que je pense que je partirais pas forcément d'un texte préexistant. Je pense qu'au contraire, ce qui est intéressant, c'est d'écrire pour le bruitage, d'écrire en pensant justement ce décalage-là entre l'objet sur la scène et l'objet sonore. Et ce serait plutôt d'inventer une écriture à partir de ça, et de vraiment, à mon avis, écrire pour cette forme-là et en tirant parti de ces possibilités, en fait.
Donc pour une forme hybride, radio, radio sur scène, radio théâtre, c'est comme ça que vous écrivez, vous, Florent Barra? En pensant ça dépend des textes, vous allez me dire, mais vraiment en essayant de penser les deux, de penser quelque chose à la fois scénique et de radiophonique qui intègre à la fois le son comme ça et une mise en scène qui peut bien fonctionner.
Mais alors, dire que j'ai fait ça pour Pileta, ce serait mentir, puisque à la base, c'était un texte pour une fiction radio qu'on a faite en studio, enfin, en tout cas, qu'on a faite dans des conditions normales de création radio et pas sur scène. Donc, non. Après, la réécriture pour le plateau, c'est un peu faite tous ensemble, parce que aussi, c'est parti aussi du plateau, de choses qu'on tentait. Du coup, non, je peux pas dire ça. Je sais que pour Beau Jeune Monstre, j'avais écrit, par contre, en pensant là très clairement à une fiction radiophonique, mais pas live non plus, donc voilà, c'est encore pas pareil. Par contre, on a un nouveau projet un peu en tête, et là, par contre, je sais que je me mets dans l'état d'esprit d'écrire spécifiquement pour quelque chose de radiophonique live.
Donc c'est là, comme ça qu'on dit, c'est quelque chose de radiophonique live. Il y a plus le mot théâtre, c'est quelque chose de radiophonique live.
C'est comme ça que Florent aime bien l'appeler, en tout cas.
Ouais, une fiction radio live, moi je trouve ça cool. Je trouve que c'est ça qui représente le plus ce qu'on fait, mais on n'est pas tous d'accord.
Ouais, c'est un grand débat dans le groupe, de nommer ce qu'on fait.
des gens qui disent un spectacle radiophonique, d'autres qui veulent dire du théâtre radiophonique, ce qui pour moi ne fait pas de sens.
Oui, c'est un débat et on n'a pas encore les réponses.
En tout cas, moi, je me suis fait la mienne, je la garde.
Ouais. Mais il y a un truc que tu n'as pas dit, que
oui.
Tes textes, tu les écris à l'oral.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est une part importante,
ouais.
Je trouve.
En tout cas, oui, en tout cas, certains, ouais, c'est clair. Enfin, Beau Jeune Monstre, par exemple, j'avais un micro, un enregistreur et j'ai tout oralisé d'abord.
Donc, c'est même pas écrit, en fait, finalement, c'est déjà.
À la base, c'est vraiment dit. J'ai une démo dégueulasse de Beau Jeune Monstre où je fais toutes les voix avec des effets tout pourris que je mets sur une petite table de mix dégueulasse aussi. Mais ouais, à la base, Beau Jeune Monstre, en tout cas, ça a vraiment été comme ça. Pileta, pas tout à fait.
C'est passé par le plateau et par le collectif aussi, pas mal.
Pileta,
oui.
Beau Jeune Monstre.
Non, Pileta, mais Pileta pour la version
live.
Oui,
pour la version live, par contre, ouais, mais le texte original de Pileta, non, il a vraiment, par contre, lui a été écrit plutôt sur un ordi, quoi. Mm. Et après, il a bougé dans le live, effectivement, mais. Ouais. Mais en fait, je crois que vraiment, je pense que de base, naturellement, j'ai une écriture assez orale et. Enfin, voilà.
Comment vous appelleriez-vous ces formes-là? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas besoin des noms, mais c'est quand même des formes un peu hybrides ou qui.
Oui, oui, je pense que tous les termes hybrides qu'on a mentionnés fonctionnent en fait. C'était lequel le tien
Moi j'ai dit fiction radio live.
Ouais, fiction radio live, spectacle radiophonique, je trouve que ça marche aussi. Alors c'est sûr qu'il y a d'abord l'image. Voilà, il y a d'abord l'image dans le mot spectacle radiophonique peut-être.
Mais vous utilisez en tout cas dans la présentation le terme écouter avant de voir, je pense, non? C'est un spectacle à écouter et à voir.
Ouais, ouais, ouais. Oui, franchement, oui, c'est vraiment une position politique. Je
contre
parle
de
la vraie politique, pas la politique des élections, la vraie politique
contre
des citoyens. Quoi,
ouais.
De dire, ouais, non, c'est une fiction radio, venez écouter notre spectacle, enfin, notre pièce.
Et de plus en plus de théâtre, donc, comme vous disiez au tout début, s'intéresse à la forme radiophonique et programme finalement ce type de nouvelle forme.
Bah là, nous, on a été subjugués par l'accueil de ce truc. Enfin, je veux dire, on a eu à la fois un soutien financier de la radio, on a à la fois un soutien financier du théâtre, on a gagné un prix dans un festival de théâtre, enfin... Vraiment, et là on est programmé dans des théâtres. Enfin,
et puis vous allez tourner, vous allez à Avignon, non, je pense. Puis vous allez tourner
à Avignon. On a plein de dates dans des théâtres, enfin dans des lieux vraiment consacrés et dédiés au théâtre et pas du tout. Enfin voilà, on jouerait que dans des festivals comme Brouillage et tout ça. On dirait oui, ok, ça se justifie, c'est cool. Il y a un théâtre qui prête une salle pour un festival de radio, mais là vraiment, on était à Tours dans un festival de la jeune création théâtrale contemporaine avant de venir à Paris. C'était vraiment l'institution théâtre qui nous invitait à jouer. La salle était blindée. Enfin, il n'y avait pas. C'est jeune public, enfin, c'est tout public en tout cas. C'est à partir de 8
de
ans,
7 ans.
Mais 7 ans jusque pas d'âge. Mais genre à Tours, il y avait, même ici, il y avait 99% d'adultes. Pour pas dire 99%. Ce qui serait encore plus.
Un dernier mot peut-être pour conclure.
Comment je vais pouvoir conclure?
Et tout de suite la météo.
Voilà, tout de suite
avec
la météo,
Nicolas.
Je vous remercie en tout cas d'être venu discuter de théâtre, de radio et de mise en scène. Donc longue vie à Pileta Remix. Vous êtes donc à Avignon. On retrouve toutes les dates, j'imagine, sur le site du collectif Waouh.
Ouais, le collectif Waouh.be. Et Waouh, c'est W-O-W. C'est pas W-A-O-U-H comme un chien.
W-O-W. Ben, merci beaucoup en tout cas aussi à Radio Campus pour l'invitation de cette émission et à Paul Henry à la réalisation de l'émission. Merci beaucoup Laurie Gouroff d'être venu aussi discuter de toutes ces questions passionnante. Le festival Brouillage, ça continue sur les ondes du 93.9 Radio Campus Paris, et vous retrouvez toute la programmation du festival qui se tient jusqu'au samedi 6 mai sur le site internet à l'adresse suivante festival-brouillage.tumblr.com. Mais dans quelques instants, donc moins d'une minute, on part au théâtre de la Loge, au 77 rue de Charonne à Paris pour deux performances. C'est Micro Yuna de la compagnie Tixi et Sidération Variation par le collectif ATA, à suivre bien sûr en direct sur les ondes de Campus Paris. Bonne soirée à tous.